Radio Kapi. Oh, Kapi. Jean-Désiré Kanyama pour le journal.
Au sommaire de ce journal, la République démocratique du Congo et la Zambie bientôt reliées par un pont qui sera jeté sur la rivière Luapula dans le territoire de Kasenga en province du Haut-Katanga. La cérémonie de la pose de la première pierre a été présidée hier lundi par le chef de l'État Félix Tshisekedi et son homologue zambien Aikande Atilema. Chapitre électoral, le docteur Denis Mukwege s'est dit prêt et décide de s'engager dans la course à la présidentielle de décembre 2023. Le prix Nobel de la paix l'a annoncé hier lundi à Kinshasa au cours de son adresse à la nation. Une réponse à la demande de la population, dit Denis Mukwege, qui dresse un tableau sombre de la situation socio-économique et sécuritaire dans le pays. L'invité de ce journal est la chargée du projet de résolution des conflits à l'ONG Pool Institute à Ituri. Sandrine Loki parle du mécanisme mis en place par un consortium d'organisations humanitaires pour permettre aux parties en conflit de trouver des espaces en vue de régler leurs différends par des voies pacifiques. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je le disais tantôt, la République démocratique du Congo et la Zambie seront reliées par un pont qui sera jeté sur la rivière Luapula dans les territoires de Kasenga en province du Haut-Katanga. La cérémonie de la pose de la première pierre a été présidée hier lundi par le chef de l'État Félix Tshisekedi et son homologue zambien Aikande Atilema. Ce projet route-pont Kasomeno-Kasenga-Mwenda est un partenariat public-privé qui sera exécuté par le groupe européen de développement. Un projet salué par les deux parties au regard de l'importance socio-économique qu'il revêt. Des détails avec Jean Gandou.
Pour le gouvernement de la province du Haut-Katanga, ce projet, une fois concrétisé, permettra de résoudre l'épineuse question de l'engorgement du poste frontalier de Kasumbalesa. Pour sa part, le responsable de l'Agence congolaise des grands travaux a indiqué que par ce projet, ce sont 193 km de route qui seront construits et un pont de 350 mètres sera jeté sur la rivière Luapula. Les travaux dureront 36 mois. Le coût total est estimé à 252 millions de dollars américains et c'est un partenariat public-privé de 25 ans. Pour le ministre zambien des infrastructures, le coût total des travaux du côté zambien est de 180 millions de dollars américains. C'est aussi un contrat de gestion de 25 ans, soit 3 ans de travaux et 22 ans d'exploitation. Pour sa part, le premier ministre Jean-Michel Samalukonde a indiqué que ce projet, au-delà de son importance économique, aura un impact sur la configuration du territoire de Kasenga, mais aussi d'autres entités de la République zambienne. Il est aussi un projet créateur d'emplois. Et juste après, les deux chefs d'État ont posé la première pierre pour la construction de la route Kasomeno-Kasenga-Tchaloué et du pont qui sera jeté sur la rivière Luapula. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Dans la province du Tanganyika, l'Association des femmes pour le développement communautaire, AFEMDECO, s'inquiète de la présence massive des enfants dans les carrières minières de coltan dans le territoire de Nyunzu. La coordonnatrice nationale de cette ONG insiste sur que ces enfants doivent quitter les carrières pour aller à l'école. À cet effet, Nénette Mwangé lance un cri d'alarme aux ONG qui ont la possibilité de faire sortir ses enfants dans les carrières. Elle est au téléphone de Paul Mounanga.
Dans le Tanganyika, précisément à Nyunzu, dans le groupement Bangu. C'est là où nous avons trouvé les enfants dans les carrières minières. Alors, ça nous a inquiété parce que nous sommes à la rentrée scolaire presque un mois, mais les enfants, à la place d'aller à l'école, ils se précipitent d'aller encore dans les carrières minières. C'était ça notre inquiétude. De l'autre côté, on prend la gratuité, mais de l'autre côté, les enfants quittent maintenant l'école vers les carrières minières.
Nous pouvons peut-être lancer un appel aux ONG qui ont la possibilité de nous joindre à nous. Nous pouvons faire ce travail ensemble de faire sortir les enfants de carrière et les amener à l'école. Là, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité de ces enfants qui doivent entrer à l'école normale et il y a aussi la possibilité des enfants qui peuvent peut-être suivre les métiers pour gagner leur vie. Nous sommes là pour la formation professionnelle pour les aider.
Depuis 2020-2021, nous étions à Kipushi en train de faire sortir les enfants dans des carrières minières de Kipushi. Là, nous avons fait sortir 500 enfants.
Au chapitre électoral, le docteur Denis Mukwege s'est dit prêt et décide de s'engager dans la course à la présidentielle de décembre 2023. Le prix Nobel de la paix l'a annoncé lundi à Kinshasa au cours de son adresse à la nation devant la presse et ses sympathisants. Selon lui, sa candidature à la présidentielle est une réponse à la demande de la population qui lui a même remis la caution pour cette fin. Cependant, le docteur Mukwege appelle à la mobilisation de tous pour se rassurer que les résultats qui seront publiés par la CENI à l'issue de ce scrutin traduisent réellement l'expression du peuple. Le prix Nobel de la paix dresse également un tableau sombre de la situation socio-économique et sécuritaire dans le pays. Il dénonce ce qu'il qualifie d'arrestations arbitraires des opposants politiques et journalistes, la corruption, la prédation des ressources nationales ainsi que des multiples violations des droits de l'homme. On écoute Denis Mukwege dans ses propos recueillis par Grâce Hamzati Massanzi.
C'est depuis une dizaine d'années qu'au travers de nombreuses associations et personnalités représentatives de notre très riche diversité, les Congolaises et les Congolais m'exhortent à m'engager davantage à leur côté en me présentant comme candidat à la présidence de la République. Je me suis longtemps retenu de répondre à ces appels car, bien qu'en fait de très dures réalités qu'enduire notre peuple, il n'est pas dans mon caractère de m'engager dans une responsabilité aussi grave et noble de manière hasardeuse. L'insécurité, la faim, la maladie, le chômage, l'humiliation sont le lot quotidien de notre peuple. Bien que doté d'un potentiel incommensurable de développement, notre pays est devenu la honte du continent et la risée du monde. Nous sommes devant une crise existentielle sans précédent, caractérisée par des violations répétées des textes réglementaires, y compris la loi fondamentale, menaçant même les vivre ensemble.
Et puis l'Association africaine des droits de l'homme exige la libération du journaliste Stanny Boudjakera, directeur de publication adjoint du site d'information actualité.cd et correspondant des Jeunes Afriques en République démocratique du Congo. Son président l'a dit hier lundi dans une conférence de presse à Kinshasa. Maître Jean-Claude Katende dit se baser notamment sur le fait que la personne ou l'institution qui se plaint n'a pas usé de son droit de réponse. Mais aussi, dit-il, l'article de Jeune Afrique incriminé n'est pas signé et donc il ne peut être attribué à Stanny Boudjakera. On écoute Maître Jean-Claude Katende dans ses propos recueillis par Martin Seboudjangui.
Nous avons trois constats que nous avons faits. Le premier, c'est que l'institution ou la personne qui s'est plaint n'a pas usé de son droit à la réponse comme cela est prescrit par la loi sur la liberté de la presse en République démocratique du Congo. La personne lésée, dit la loi, doit pouvoir demander qu'on lui accorde un droit de réponse et si celui-ci lui est refusé, il peut donc s'adresser à la justice. Deuxièmement, nous avons constaté que la justice exige à M. Stanny Boudjakera de donner ses sources d'informations. Or, la même loi interdit aux journalistes de divulguer ces sources d'informations. Donc, c'est une demande qui n'est pas conforme à la loi sur la liberté de la presse. Enfin, nous avons aussi constaté que l'article dont question qui a été publié dans les journaux Jeune Afrique n'a pas été signé. Donc il est difficile qu'on puisse attribuer la paternité de cet article à M. Stanny Boudjakera.
Et pour rappel, Stanny Boudjakera est accusé par la justice des infractions présumées de faux en écriture, falsification des sceaux de l'État, propagation de faux bruits et transmission de messages erronés et contraires à la loi en rapport avec le meurtre du député national Chérubin Okende. En Ituri, les militaires des FARDC en collaboration avec les casques bleus de la MONUSCO ont lancé la nuit de dimanche des offensives contre des miliciens réfractaires au processus de paix dans les territoires des Djougou. D'après nos sources sur place, la première patrouille de combat est celle qui a conduit les deux forces au village Masikini dans le secteur de Djatsi. Pour l'heure, le bilan officiel de ces opérations n'est pas encore disponible. Le porte-parole de l'armée en Ituri confirme cette information, mais il précise qu'il s'agit des opérations menées par les deux forces pour mettre hors d'état de nuire les groupes armés réfractaires au processus de paix dans ce territoire. Le lieutenant Jules Ngongo a été joint par Jean-Claude Lokidili.
Sans pourtant se pencher sur le bilan, mais vous devez savoir que les forces armées de la République démocratique du Congo, en coalition avec la MONUSCO, donc dans la mutualisation de forces sur le plan tactique et opérationnel, nous nous sommes rangés pour de plus en plus protéger nos populations contre toute velléité des groupes armés qui sont encore hostiles au processus. Ceux-là qui ont eu le goût de s'attaquer à la paisible population, de s'attaquer au site, de s'attaquer, de faire des embuscades, des opérations de survie sur le dos de la population. Et donc, le deux commandants, entre autres le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, qui est le commandant des opérations avec toute son équipe. De la même manière, du côté force amie, nous nous sommes mis ensemble pour mettre des dispositifs sécuritaires qui vont nous permettre de contrecarrer toutes les actions de l'ennemi sur nos populations.
Au Nord Kivu, le commissaire provincial de la police a présenté hier lundi à la presse à Goma un groupe de 26 présumés criminels. C'était lors de la parade de la police, en présence d'un public dont faisaient partie les membres des familles de certaines victimes. Pour le commissaire divisionnaire adjoint Eddy Mukuna, ces présumés criminels appartiennent à au moins 5 bandes différentes. Ce seraient entre autres des meurtriers, kidnappeurs, cambrioleurs, ainsi que des jeunes qui détiennent illégalement des armes qu'ils louent à 40 000 francs congolais par nuit. Le général Eddy Mukuna dans ses propos recueillis par Bernard Denyangui.
La plupart de ces gens-là ont été auteurs de plusieurs crimes. Nous avons connu la perte d'un officier de la police. Nous avons également connu la mort d'un policier qui avait été tué pendant les événements du 30 août, et également ceux qui sèment la terreur dans la ville de Goma. Nous avons mis la main sur un groupe de personnes qui font louer les armes, 40 000 francs congolais par nuit aussi. Donc ils sont complices des actes qui sont posés par les auteurs. Donc, la police est en train de faire son travail, ce qui est essentiel. Donc nous voulons que notre population puisse vivre en paix. Nous n'allons pas nous arrêter là. Le travail continue. Nous encourageons cette police qui a un travail de titan. Et aussi, nous appelons par la même occasion la population à dénoncer tous ceux qui sèment la terreur dans la ville et qui ont des informations qui peuvent aider la police à mettre la main sur tout qui sème cette terreur dans la ville de Goma. Et aussi, je venais de m'adresser à la population pour dire que ceux qui sont victimes, qui se constituent en partie civile au niveau des juridictions qui ont en charge la gestion de tous ces dossiers-là.
Rappelons qu'un capitaine de la police, une des victimes de ce présumé criminel, avait été lynché le 22 septembre dernier au quartier Majengo par une foule de jeunes qui manifestaient suite à la mort d'un des leurs la veille dans le village voisin de Bouéné, en territoire de Niragongo. À Mbandaka, pendant ce temps, le nouveau commissaire provincial de la PNC Équateur appelle à la collaboration entre la police et la population. Le commissaire divisionnaire Placide Niembo l'a dit hier lundi au cours de sa toute première parade avec ses unités dans la province. En outre, il les a exhortés au respect de la hiérarchie et à la bonne collaboration avec les autorités politico-administratives, mais aussi à cesser toute forme de tracasserie envers les citoyens et inquiéter tous les malfrats dont les bandits a appelé Kuluna. Par ailleurs, l'autorité policière a sommé les OPJ de payer les recettes des amendes transactionnelles au compte du Trésor public à la DGRAD. Le nouveau commissaire provincial de la police, Placide Niembo, revient sur ce qu'il entend par collaboration entre les policiers et les civils. Il est au micro de Paul Richard Malengela.
Le message que je vais donner, c'est le message de mariage qui doit être scellé ou que nous scellons entre la police nationale congolaise et la population elle-même. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que le policier est comme un poisson dans l'eau. Donc le poisson doit tout faire pour qu'il y ait de l'eau parce que sa vie en dépend. Pourquoi ce mariage ? Parce que la police nationale congolaise a comme première mission de sécuriser les personnes et les biens. Ces personnes-là constituent la population, toute la population de l'Équateur. Nous devons travailler en franche collaboration avec la population, de sorte que si la population a un problème, elle appelle vite l'intervention de la police et la police doit être en mesure de secourir celle-ci en temps réel. Voilà le message que je vais donner à la population. Je recherche ici la quiétude de la population de l'Équateur, qui doit être assurée par la police nationale congolaise de l'Équateur.
En bref, dans la province de la Tchopo, l'association des victimes des guerres de Kisangani plaide pour le paiement de leur indemnisation. Ceci pour leur permettre de résoudre leurs problèmes et surtout ceux d'ordre humanitaire, mais surtout des soins de santé. Dans une déclaration faite à la presse lundi à Kisangani, cette structure a fait savoir que plus de 10 de ses membres sont malades et 3 autres sont décédés le mois dernier, faute de soins appropriés.
Actualité internationale.
Congo-Brazzaville, un jet privé de la présidence mis en vente ce mardi à Bordeaux, au sud-ouest de la France. Un jet privé appartenant à la présidence du Congo va en effet être vendu aux enchères. Une vente qui fait suite à la longue procédure juridique qui oblige l'État du Congo à payer ses dettes à une compagnie de BTP. Suite au refus des autorités, cet avion et d'autres biens de la présidence du Congo ont donc été saisis. À Madagascar, les forces de l'ordre ont fait usage des gaz lacrymogènes hier lundi contre les candidats à la présidentielle issus de l'opposition. 11 des 13 candidats avaient donné rendez-vous à la population pour venir se rassembler à la place du 13 mai, un lieu emblématique de la capitale sur laquelle toutes les contestations politiques de la ville ont lieu. Mais un important dispositif des forces de l'ordre les en ont empêchés. Plusieurs blessés et des arrestations ont été enregistrés.
L'invité
de ce journal est la chargée du projet de résolution des conflits de multiples formes à l'ONG Pool Institute en Ituri. Sandrine Loki parle du mécanisme mis en place par un consortium d'organisations humanitaires pour permettre aux parties en conflit de trouver des espaces en vue de régler leurs différends par des voies pacifiques. Un programme qui est mis en œuvre dans la province de l'Ituri et le Nord Kivu grâce au financement de l'Union européenne. Sandrine Loki est interrogée à Bounia par Jean-Claude Loki Dili.
Sandrine Loki, bonjour.
Bonjour.
Vous avez réuni les leaders communautaires dans le but de renforcer les capacités dans le plaidoyer et le lobbying. Pourquoi plaidoyer et lobbying?
Nous sommes dans le projet médiation qui est mis en œuvre sur le terrain par plusieurs organisations, entre autres Interpeace qui œuvre à Mambasa et ainsi qu'à Beni Territoire. Pour l'Institut qui est dans le territoire des Rumu et Beniville, APC couvre les zones Njugu et Mahagi, ainsi que l'Université de New York qui est transversale. Alors le pourquoi de cette thématique plaidoyer ainsi que le lobbying, parce que le projet a commencé depuis février 2022 et dès le départ nous avons commencé par organiser plusieurs consultations afin de déterminer quelques enjeux conflictuels. Nous les avons identifiés ensemble avec le parti prenante qui est la communauté essentielle. Nous les avons validés. Ensuite, nous avons mis en place des mécanismes de paix et de gestion de conflits au niveau territorial. Et au niveau provincial, on parle de groupe consultatif de médiation qui a déjà été mis en place par le projet médiation.
Est-ce qu'il y avait un besoin, est-ce qu'il y avait une urgence pour pouvoir cibler justement ces deux thématiques?
Alors justement, après que nous ayons mis en place ces différents mécanismes de gestion de conflits et de paix, nous sommes en pleine phase de préparation de processus de médiation. Il y a même déjà eu un dialogue intercommunautaire appuyé par Pôle Institute qui a porté ses fruits, notamment le dialogue intercommunautaire Lesse et Nandé.
C'est le seul dialogue pour lequel quand même vous avez quand même enregistré des succès ou il y en a d'autres aussi?
Non, naturellement, il y en a plusieurs. C'est vrai, nous sommes encore en plein processus de médiation et de dialogue, mais il y en a déjà plusieurs, notamment le dialogue intercommunautaire Mamba Moussa qui a été appuyé par Interpeace. Il y a également APC qui est en train d'organiser plusieurs activités dans le territoire d'Njugu et Mahagi. Alors, pour revenir à notre question par rapport aux besoins qui se fait ressentir, comme je le disais, de ces dialogues naissent des accords. Et ces accords doivent être sécurisés. C'est comme ça qu'avant cette formation, nous avons eu à renforcer les capacités des acteurs de GSM, mais ainsi que des acteurs locaux sur les procédures d'homologation des compromis ici de médiation réussie. Après ces stades, nous nous sommes rendus compte que dans ces accords, il y a certes des responsabilités qui reviennent aux communautés, mais il y a également des responsabilités qui émanent du gouvernement, des autorités politico-administratives du pays pour lesquelles il faudrait des plaidoyers. Mais le projet est presque à la fin et d'ici là, ces acteurs seront seuls sur terrain. Il était donc indispensable pour nous de les capaciter sur ces deux thématiques afin de les rendre autonomes, de mener si besoin il y a les plaidoyers et les lobbying qui porteront leurs fruits.
Et pourtant, Sandrine, il y a toujours des conflits, il y a toujours des rebondissements. Qu'est-ce qui fait que justement, voilà, vous n'arrivez pas à soigner une base pour que tout s'arrête?
La médiation est un processus, la paix est un processus. La paix se construit chaque jour. Nous ne pouvons pas dire qu'en 18 mois, nous avons éradiqué tous les maux de la province de l'Ituri ou de Nord Kivu. Non. Le principal objectif même de ces projets, c'est contribuer à la stabilisation de l'Est de la RDC. Ce n'est pas éradiquer carrément tous les maux, mais nous pensons que nous contribuons et nous avons contribué efficacement à la stabilisation de l'Est du pays. Alors le contexte sécuritaire, oui, le plus grand défi auquel le projet médiation a dû faire face, c'est le contexte sécuritaire, parce qu'il y a déjà eu plusieurs activités qui n'ont pas abouti, qu'on a avorté, qu'on a reporté. Tout simplement parce que le contexte ne le permettait pas. Il y a eu des zones que nous pensions pouvoir couvrir, mais que nous n'avons pas pu, compte tenu de l'inaccessibilité de zones, par exemple. Donc oui, c'est un grand défi, mais nous pensons que nous avons porté notre contribution à cette stabilisation de la RDC.
Sandrine Loki, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité, la chargée du projet de résolution des conflits à l'ONG pour l'Institut en Ituri. Sandrine Loki s'entretenait à Bounia avec Jean-Claude Loki-Dilé. Fin de ce journal qui a été supervisé par Alain Irung, Polydor Basunga, la mise en onde. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.